France Inter.
France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec la professeure Claire Mounier-Veillé ce soir. Cette cardiologue du CHU de Lille se bat contre les inégalités de genre en matière médicale. Des inégalités qui aboutissent, par exemple, à ce qu'une femme victime d'un infarctus soit moins bien prise en charge qu'un homme. Révoltant, mais pas surprenant pour notre invitée qui a décidé d'en faire le combat de sa vie. Pour une meilleure information des patientes, pour une meilleure formation des professionnels également. Bref, pour éviter des drames, car on l'oublie parfois, mais les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes. Or, avec un peu de prévention, Claire Mounier-Veillé en est convaincue, bien des accidents pourraient être évités. D'où ce bus pour le cœur des femmes qui propose des dépistages.
Bienvenue, tenez, vous pouvez vous asseoir juste ici.
Merci.
On va juste piquer au bout du doigt comme les diabétiques.
D'accord.
Et avec ça, en fait, on va pouvoir analyser pas mal de choses. Donc, au niveau du cholestérol.
D'accord.
Au niveau de la glycémie, donc le sucre. Et puis la fonction rénale.
Reportage à suivre lors de l'étape de La Rochelle. Également au sommaire de cette émission, l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis. À 19h, ce sera le journal de Céline Asselot. À 19h20, le téléphone sonne, consacré ce soir à la fonction publique. Le ministre chargé du dossier, Stanislas Guérini, veut faire tomber, je le cite, le tabou du licenciement. Il est aussi question de rémunération au mérite et de revoir les fameuses catégories ABC, autant de sujets que nous aborderons avec nos invités et avec vous tous au 01 45 24 7000. D'avance, merci à toute l'équipe du 18-20, Mathilde Texier à la préparation, Juliette Gou à la réalisation, Marie Kévin à la page web. Merci aussi à nos standardistes, ainsi qu'à Arnaud Caillé, Ludovic Asselot et Paola Collin, qui sont à la technique.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir docteur Claire Mounier-Veillé.
Bonsoir Claire.
Merci d'être avec nous. Vous êtes cardiologue, professeur de médecine vasculaire au CHU de Lille, ancienne présidente de la Fédération française de cardiologistes entre 2015 et 2019, cofondatrice de l'association Agir pour le cœur des femmes. Alors ça fait des années que vous vous battez pour une meilleure prise en charge des maladies cardiovasculaires qui touchent les femmes. Pour quelle raison ? Est-ce que c'est parce que les femmes ne sont pas des hommes comme les autres ?
Alors les femmes, elles ont des facteurs de risque comme les hommes. Et ces facteurs de risque classiques, traditionnels, l'hypertension, le tabac, l'obésité, vont agir sur leur vaisseau de façon plus méchante que chez une artère d'homme. Et à cela, vous ajoutez des facteurs de risque hormonaux liés à notre statut, la première contraception, la grossesse, l'entrée dans la ménopause. Puis on en a d'autres, on a l'endométriose, syndrome des ovaires polykystiques, on en parle beaucoup dans la presse aujourd'hui. Et finalement, il y a ces facteurs de risque qui vont agir tous ensemble pour favoriser la survenue d'un accident cardiaque. Mais ce que les gens n'ont pas peur de mourir de maladies cardiovasculaires, je voulais le souligner à l'antenne, ils ont peur de mourir de cancer. Et pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes, les chiffres de Santé publique France, le 2-33-200. 2, c'est le nombre de femmes qui, malheureusement, par jour, décèdent d'un accident de la route. On ne le veut pas. 33, c'est le nombre de femmes qui décèdent d'un cancer du sein. Et 200, par jour, c'est le nombre de femmes qui décèdent d'un accident cardio-neurovasculaire. Donc, c'est accident vasculaire cérébral, infarctus et les autres pathologies. Donc, c'est des chiffres qui parlent d'eux-mêmes.
Première cause de mortalité
chez les femmes. Une cause qui va en progressant également. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est que dans 8 cas sur 10, c'est beaucoup, on peut éviter de rentrer dans la maladie par une prévention en action.
Oui, parce que, donc, si je vous entends bien, il y a une inégalité de départ chez les femmes. Oui. Et le problème, c'est qu'il y a aussi une inégalité au niveau de la prise en charge. Et c'est là que vous intervenez, vous.
Alors, il y a une inégalité de la prise en charge, mais également, on va parler d'effet sexe et effet genre. Effet genre, c'est, on a une étude qu'on a travaillée avec AXA Prévention, à partir de 1300 femmes, où quand même plus de 80% des femmes s'occupent d'abord de la santé de leurs proches, avant de s'occuper d'elles-mêmes. Elles sont plus de 80% à faire l'automédication. Ça, c'est pas la faute du docteur. C'est la femme elle-même qui se met de côté, qui n'écoute pas ses symptômes, elle est essoufflée à l'effort, elle va dire, j'ai pris du poids. J'ai mal à la tête, c'est de l'hypertension, mais elle va dire, j'ai mal à la tête parce que je suis stressée, j'ai pas assez dormi. Donc vous voyez, il y a cet effet culturel sur lequel nous travaillons, avec effectivement le fonds de dotation Agir pour le cœur des femmes, et comme c'est une urgence médico-sociétale, je ne suis pas toute seule pour faire développer ce fonds. Je suis avec Thierry Drillon, qui est un dirigeant d'entreprise. Donc, c'est l'aspect sociétal de cette urgence médico-sociétale. Et finalement, c'est un homme. Et c'est bien aussi qu'il y ait des hommes qui prennent cette cause à pleine main.
Bien sûr, parce qu'elle concerne tout le monde. Votre credo, en tout cas, c'est la prévention, parce que vous dites, hein, vous venez de le dire, que 8 maladies sur 10 pourraient être évitées, prévenir plutôt que guérir. C'est ce que vous faites depuis longtemps au CHU de Lille. Vous êtes donc chef du service du centre des bilans, on va y revenir. Mais vous avez mis en place un parcours pour dépister ces maladies à Lille, mais vous êtes allé au-delà de Lille, puisque depuis 4 ans, vous avez lancé un bus Agir pour le cœur des femmes. Le mieux, c'est encore d'aller voir comment ça se passe. C'est ce qu'a fait Hugo Ossiou pour France Inter. Il s'est rendu à La Rochelle où le bus faisait étape la semaine dernière.
Impossible de le rater, ce bus rose bonbon installé sur une place au cœur de La Rochelle, juste à côté de la mer. Une dizaine de tentes ont été placées partout autour. Des haut-parleurs jouent de la musique, il y a presque une ambiance de festival. Marie a 50 ans, elle a récemment reçu un courrier de l'assurance maladie qui l'invitait à venir au bus du cœur des femmes. Elle entre à l'instant à l'intérieur.
Génial ce bus.
Bienvenue.
Qu'est-ce
que vous pouvez vous asseoir juste ici.
Merci.
On va juste piquer au bout du doigt comme les diabétiques.
D'accord.
Et avec ça, en fait, on va pouvoir analyser pas mal de choses. Donc, au niveau du cholestérol.
D'accord.
Au niveau de la glycémie, donc le sucre. Et puis la fonction rénale. Donc c'est juste ça.
Oui, oh bah ça va. J'ai vu pire dans ma vie.
Ces infirmières bénévoles s'occupent des prises de sang. Elles vont guider Marie vers la suite du parcours.
Vous avez fait quoi comme stand juste avant?
En fait, j'ai vu l'ACPAM, l'accueil l'ACPAM. J'ai vu le médecin qui m'a reçu avec le questionnaire. Et puis là, il m'a dit de venir au bus.
D'accord. Oui, voilà, du coup, il y aura la gynécologue ici qui va vous poser des questions.
D'accord,
et puis après, si vous voulez vérifier votre tension, il y a un stand juste à côté.
D'accord, ok.
Ce check-up de santé complet demande les efforts de plus de 60 bénévoles qui s'activent sur les différents stands. Une clinique de La Rochelle a même prêté de coûteux appareils d'analyse. Le docteur Léra Serrano est cardiologue, elle fait partie des bénévoles.
C'est une manière très, très sympa de se rencontrer autour de la santé de la femme. Moi, ça m'apporte aussi une vision différente parce qu'on fait quand même peu de prévention primaire et là vraiment de partager avec des femmes avant l'accident cardiovasculaire, leur apporter des conseils et des petits tips. Hein. Ça redonne aussi beaucoup de sens aux professionnels. Parfois on se sent découragé et on voit que par des initiatives très bienveillantes comme ça, on peut faire quelque chose avec tout notre savoir.
Pour Marie, le bilan est bon. Comme toutes les visiteuses, elle repart avec un tensiomètre pour garder un œil sur sa santé et celle de ses proches.
Claire Mounier-Veillé, quels sont les examens qui sont pratiqués à bord du bus? On comprend que ça ne se limite pas à la cardiologie.
Non, c'est un parcours qui dure environ une heure et demie par femme, voire même un peu plus, qu'on peaufine chaque année. Donc on a commencé en septembre 2021, on a actuellement dépisté plus de 8000 femmes. Or l'ambition d'Agir, c'était de sauver la vie des 1000 femmes à 5 ans. Et on va exploser le compteur avant la fin de l'année 2024, ça c'est certain. Donc en fait, c'est des femmes, effectivement, il faut souligner que l'assurance maladie nous aide énormément et je souhaitais les remercier à l'antenne au travers des caisses primaires d'assurance maladie sur chaque ville étape. Donc La Rochelle, c'était la 40e fois que nous faisions le bus du cœur depuis 2 ans. Et donc c'est des femmes qui sont invitées et qui ont un rendez-vous. C'est-à-dire que c'est pas la foire d'empoigne, on les attend. Elles sont attendues comme une consultation dans un cabinet médical ou à l'hôpital. Et là, effectivement, il y a un entretien sur un support qui est le même pour toutes les femmes et qui permet également aux médecins qui vont faire ces entretiens de ressortir plus comme avant sur le risque cardiovasculaire de la femme.
Vous faites une sorte de bilan avec des prélèvements, questionnaires.
Oui, alors pour d'abord l'entretien.
Pour avoir une idée du risque, c'est ça?
Alors, en fait, on dépiste des pathologies. C'est-à-dire que c'est effectivement des entretiens. Dans le bus, c'est effectivement le mini-laboratoire sur la glycémie, bilan lipidique. L'entretien gynécologique, hein, c'est pas un questionnaire, c'est la gynécologue qui fait un entretien et qui s'intéresse aussi aux cas de violence faites aux femmes, hein, c'est important aussi. Et puis elles ont toutes maintenant, ça c'est nouveau cette année, un électrocardiogramme, parce que c'est bien d'avoir dans son dossier médical un électrocardiogramme de base. Mais on a trouvé des pathologies.
Des cas graves que vous détectez?
Oui, on a vu des femmes qui sortaient d'un infarctus qu'ils ne le savaient pas. On a vu des femmes dont le cœur s'emballait, ce qu'on appelle la fibrillation auriculaire. On a eu des troubles de conduction, c'est autre chose, mais on met un pacemaker. Donc vous voyez, on a vu des cas importants. Et puis pour celles qui sont les plus à risque selon l'entretien médical, on a aussi la possibilité de leur faire un Doppler artériel au niveau des artères du cou, les carotides, au niveau de l'artère du ventre et au niveau des artères des jambes. Donc, c'est pas anodin et on a un observatoire qui s'appelle l'Observatoire National de la Santé de la Femme qui collige les données anonymisées de toutes ces femmes et je peux vous dire que 90% des femmes dépistées avaient au moins 3 facteurs de risque cardiovasculaire, ce qui est beaucoup. Plus de la moitié avait 2 facteurs de risque gynéco-obstétricaux et que la moitié avait les 2 à la fois. et 40% des femmes avec qui on a eu l'entretien gynéco n'étaient pas à jour dans leur suivi gynécologique. Donc vous voyez, c'est le principe du bus du cœur des femmes, parce que le cœur c'est aussi l'affection, c'est l'amour, c'est la santé globale de la femme. Et sur le village bien-être santé, au-delà du dépistage, il y a aussi une initiation aux gestes qui sauvent face à l'arrêt cardiaque des femmes, parce que là aussi, il y a des retards de prise en charge. Mais il y a également tous les associations autour du cancer, parce qu'on ne peut pas saucissonner la santé de la femme. On sait aussi que les femmes qui ont un cancer du sein avec chimio rayon, elles sont à risque cardiaque. Donc vous voyez, c'est vraiment une prise en charge globale.
Il y a un village d'ailleurs qui se met en place quand le bus arrive dans une ville. Il y a tout un partenariat avec
les soignants locaux. Il y a tout un partenariat avec la ville, parce qu'il faut que la ville soit partenaire, puisque c'est finalement le bus du cœur des femmes, c'est la prévention en dehors des murs de l'hôpital. C'est pas la prévention dans la rue, version foire. C'est très structuré, c'est très organisé. C'est 3 mois de préparation pour la ville. Les professionnels de santé, on leur fait un webinar de formation sur les spécificités du risque des femmes. Et derrière, on évalue. Parce que c'est pas tout de dépister à la one again, c'est formaliser, on prend le temps, on les écoute. Et derrière, il faut savoir qu'une femme sur 3 se voit proposer un rendez-vous formalisé à l'hôpital ou en consultation libérale. Donc ça, c'est très important. C'est que tout ça, c'est encadré. Par contre, c'est anonyme pour rassurer les auditrices. C'est-à-dire que je ne sais pas après qui sont les dames. C'est un principe d'une campagne d'auscultation d'un territoire. Et l'originalité également du bus du cœur, c'est qu'on fait appel à des professionnels de santé du territoire. C'est pas un bus avec des professionnels de santé d'agir pour le cœur des femmes, mais c'est bien des professionnels de santé du territoire, transgénérationnels. C'est-à-dire que ça va de l'étudiant en médecine, l'élève sage-femme, l'élève infirmière, au médecin retraité. Et effectivement, c'est quelque chose qui est bienveillant et qui est humain et qui nous redonne aussi du sens à nos métiers de soignants. C'est super important parce que, voilà, le confinement, le Covid, l'hôpital public, c'est compliqué.
Et qui peut rassurer les femmes qui auraient peur d'aller consulter.
Et vous avez raison de le souligner, parce qu'on a des témoignages de femmes qui nous disent « on n'osait pas aller à l'hôpital, on n'osait pas téléphoner ». Et finalement, comme il y a de la musique, comme c'est sympa, comme c'est rose et que c'est bienveillant, on dédramatise la santé. Voilà. C'est ça qui est important.
C'est rose et c'est même surnommé, j'ai cru comprendre, le bus Barbie.
C'est un bus Barbie, honte de le dire. Et maintenant, on a la maison médicale mobile, grâce à notre grand bienfaiteur Marc Ladret de la Charrière. Et nos donateurs, on a pu se reconstruire après l'incendie.
Voilà, un vrai partenariat public-privé. On va y revenir et on va revenir aussi sur ce que vous disiez, parce que des femmes qui arrivent, qui ont fait un infarctus, qui ne s'en sont même pas rendues compte, ça n'a pas été diagnostiqué, on va se demander comment c'est possible. Mais on va d'abord s'arrêter sur l'actualité de la semaine, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Julie Edgou, à la une, des cas d'ultra-violence chez les très jeunes qui interpellent.
C'est dur de parler d'un gamin. Un gamin qui sort de l'école et qui se fait massacrer comme ça.
Le maire de Viry-Châtillon, dans l'Essonne, sous le choc après la mort de Shamseddine, 15 ans, à la sortie de son collège.
Ils n'ont pas le droit de faire ça. Qu'on trouve des solutions, c'est pas facile.
C'est difficile, franchement. Je le connaissais, c'était mon pote. On n'a même plus le droit de parler aux filles dans ce monde.
L'adolescent aurait été puni par les grands frères d'une élève avec laquelle il correspondait. Question d'honneur, aurait-il expliqué, irrecevable pour le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti.
Que les choses soient très claires, il n'y a pas de crime d'honneur, il n'y a que des crimes d'horreur, et en l'occurrence d'horreur absolue.
Sur le banc des accusés, les réseaux sociaux, alors la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, suggère la chose suivante.
Au fond, est-ce qu'on ne peut pas faire une pause numérique complète pendant les 8 heures du collège?
Il faut respecter le prof et le cours, donc je pense que ça peut être une bonne idée de laisser le téléphone à l'entrée du collège.
Mais tous les élèves ne sont pas convaincus.
Les personnes qui harcèlent des élèves, ça, ils le font à la maison, donc je pense que ça ne va pas trop changer.
Violence à l'école, mais pas seulement. À l'hôpital de Challans, en Vendée, un brancardier a été grièvement blessé, passé à tabac par le fils d'un patient impatient.
Nous, soignants, ne sommes pas préparés à faire face à ce genre de situation.
Le docteur Mezraoui, président de la commission médicale d'établissement.
C'est inacceptable, incompréhensible et intolérable. Il faut que ça s'arrête.
Et pendant ce temps, le gouvernement lance une nouvelle réforme pour, je cite, l'efficacité de la fonction publique.
Il faut qu'on puisse entrer plus facilement dans la fonction publique, qu'on puisse être promu plus facilement dans la fonction publique et qu'on puisse en sortir plus facilement.
Et Stanislas Guérini, le ministre chargé du dossier, d'évoquer ce qu'il appelle le tabou du licenciement.
Le statut n'a jamais expliqué qu'on ne pouvait pas licencier quelqu'un qui ne fait pas bien son travail.
La législation existe, à l'État de s'en servir, dit le président du groupe LR à l'Assemblée.
Si l'État ne le fait pas, c'est qu'il est un très mauvais employeur. J'ai envie de poser la question sans malice.
Sans malice, sans malice.
Est-ce que ça vaudra aussi pour les ministres incompétents ?
Et toc. Mais les syndicats, eux, n'ont pas envie de rire. Mylène Jacquot, de la CFDT Fonction Publique.
On nous dit qu'on va augmenter le nombre de licenciements, alors qu'on a besoin de recruter des dizaines de milliers d'agents. On est à côté de la plaque.
Même sentiment à la CGT, où Céline Verzelletti le confirme, les préavis de grève sont prêts pour les JO.
Le préavis de grève, il débute le 15 avril. Vu le contexte social actuel, nous ne pouvons pas faire de trêve olympique.
Côté sécurité, pour les JO, ce sera le grand retour du QR code, annonce Gérald Darmanin. Comme au bon vieux temps du Covid, il sera nécessaire pour accéder à certains secteurs de la capitale.
Il faudra avoir son QR code pour tous les riverains. C'est gratuit, bien évidemment, pour l'intégralité des personnes qui vont rester dans cette zone.
Et cela concernera notamment les abords de la Seine, où la qualité de l'eau laisse à désirer pour les futures épreuves de natation.
On est entre quasi 2 et 3 fois au-dessus des normes minimum impératives, en fait, pour une pratique saine, en tout cas des athlètes pendant la saison.
Marc Valmassoni, de l'ONG Surfrider.
Il faut envisager un plan B par rapport, en fait, à la natation.
Une autre épreuve qui n'est pas une discipline olympique et pourtant, mercredi, Anouk Garnier, spécialiste de l'impossible, a atteint le 2e étage de la Tour Eiffel en grimpant à la corde.
Hey, monumentale Anouk Garnier,
wow. 18 minutes d'ascension pour atteindre 110 mètres de hauteur, le tout pour la bonne cause.
Grimper à la corde sur la Tour Eiffel, c'est juste incroyable, donc je suis vraiment très heureuse d'avoir fait. Et je l'ai fait aussi pour une belle cause, c'est pour la Ligue contre le cancer.
Ah.
Pour vraiment montrer qu'il faut faire du sport.
Ah, quel sport !
Une semaine en France, en compagnie de Claire Mounier-Veillé, cardiologue, militante pour le cœur des femmes. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir à l'une ou l'autre de ces informations, Claire Mounier-Veillé. Sur l'hôpital, qui n'est plus un sanctuaire, on a entendu ça.
On se rend compte que finalement, avant, on avait les médecins, les infirmières, on n'y touchait pas. Et c'est vrai qu'on ressent de l'agressivité, même quand on a un patient au lit ou en consultation. Ça, le ton peut vite monter, mais il faut rester calme. Il faut comprendre s'il y a une réaction comme ça. Il y a peut-être aussi de la souffrance, de l'inquiétude, mais ça n'explique pas la violence. La violence est inacceptable.
Et sur les moyens de l'hôpital, chez vous à Lille, est-ce que
déjà, nous
vous
les
avez des moyens ou pas de faire...
Il y a la sécurité. On a des agents de sécurité à l'entrée de chaque hôpital. On ne peut pas rentrer comme ça dans l'hôpital comme autrefois. Autrefois, par les sous-sols, on pouvait rentrer. En tout cas, au CHU de Lille, aujourd'hui, tout est extrêmement verrouillé.
Et les moyens pour travailler, je pensais à ça, pour le manque de personnel, existe chez vous aussi ?
Oui, il existe, bien sûr qu'il existe. On voudrait développer plus. Vous parliez tout à l'heure du centre des bilans, on voudrait développer plus. Mais bon, il y a aussi un absentéisme par fatigue, hein, parce que le Covid nous a quand même mis à mal. Et on a maintenant encore les répercussions de cette période qui a été extrêmement noire pour nous tous.
Il y a des conséquences toujours pour les patients en matière cardiovasculaire suite au Covid ?
Il y a des Covid longs. Il y a effectivement des maladies ce qu'on appelle de l'insuffisance cardiaque post-Covid. Tout ça, c'est connu de nos spécialistes. Donc maintenant, en cardiologie, on a tous des ultra-spécialités. Mais toujours est-il qu'il y a des consultations pour les Covid longs avec des symposiums, ce qu'on appelle nous des réunions pluriprofessionnelles, pluridisciplinaires. Voilà.
Alors on va en revenir aux inégalités de genre, parce que ces inégalités coûtent cher à la société, c'est vrai partout dans le monde. Un rapport qui a été publié à l'occasion du Forum économique de Davos en janvier soulignait que la moindre prise en charge de la santé des femmes par rapport à celle des hommes coûtait 1000 milliards de dollars par an. Voilà, c'est le chiffre qui a été donné. C'est dire l'importance du sujet. Puis récemment, une étude a été réalisée par des chercheurs de Montpellier. Elle a montré que les diagnostics réalisés aux urgences différaient en fonction du genre, mais aussi de la couleur de peau. Cette étude a été réalisée auprès de 1500 soignants dans plus de 150 villes, en France, en Belgique, en Suisse et à Monaco. Devant une douleur thoracique, les réflexes ne sont pas les mêmes. Étude coordonnée par le professeur Xavier Bobia, chef des urgences au CHU de Montpellier. Il est avec Benjamin Recouvreur.
L'idée de l'étude, c'était de dire si on présente à de multiples personnes un cas clinique factice de douleur thoracique qui est ni trop caractéristique de quelque chose de grave, ni trop caractéristique de quelque chose de pas grave, et qu'on y associe une image, les gens vont avoir une évaluation de la gravité qui va être différente selon que l'image représente des personnages de type différent. Et là, c'était d'origine ethnique ou de sexe différent. Le cas est jugé moins grave quand c'est une femme, Ça, c'est le plus gros effet. Et il est jugé moins grave quand l'apparence est une apparence noire. Ben, ça fait 50% de plus de chances d'être côté urgence vitale quand vous êtes un homme blanc par rapport à la femme noire. Donc oui, c'est énorme. On s'attendait pas à cet effet-là, honnêtement. Les soignants sont des humains comme les autres, donc ils sont attachés de leurs préjugés comme tout le monde. Autant ça m'a surpris et évidemment que ça me désole, autant je suis content de le mettre en avant parce que je pense que ça permet de se poser la bonne question qui est « et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?»
Eh ben voilà la question, Claire Mounier-Veillé.
Je pense que c'est plus que l'origine ethnique. Là, je suis très surprise par ce résultat parce que on a une population qui est quand même très variée aujourd'hui en France. En tout cas, nous, en tant que soignantes, c'est pas ça qui va m'interférer. Après, l'histoire de la femme par rapport à la douleur thoracique, c'est connu. Et c'est pour ça qu'on casse les préjugés. Mais on peut vous prendre des exemples masculins. La migraine chez un homme, la dépression chez un homme, l'ostéoporose chez un homme, on pense que ce sont des maladies de bonne femme. Hein. Donc en fait, on a effectivement des pathologies qui sont plus fréquentes dans un sexe que dans un autre. Mais là aussi, c'est en train de bouger, mais on a appris la cardiologie avec des typologies masculines. Hein. L'infarctus, c'était l'homme de 50 ans, un peu bedonnant, fumant, voilà, bon vivant. La jeune femme dynamique de 40 ans qui fait son infarctus, c'est pas en rêve, hein, ça n'existe pas.
Voilà, vous dites vous avez écrit un livre il y a quelques années pour raconter toute cette histoire, tout votre combat. Vous dites quand une femme fait un infarctus, il lui faut à elle et à son entourage en moyenne une heure de plus pour appeler les urgences. Oui. Ça part déjà de là.
Ben, ça part déjà du fait que la femme va mettre sur le compte de la douleur une autre pathologie. Ou bien, il y a aussi les femmes, elles ont, dans un cas sur deux, elles vont avoir une petite gêne dans la poitrine, mais ça va pas être le signe le plus bruyant. Par contre, elles vont avoir des signes digestifs énormes qui vont aller venir, parce que c'est pas la même maladie sur le plan anatomique. Et ce qui fait que ces femmes, elles vont être dans une sorte d'errance diagnostique. Elles vont pouvoir avoir des fibrogastriques, des scanners abdominaux. Et on va pas penser au cœur. Moi, je dis à mes femmes, à partir du moment où vous avez des facteurs de risque cardiovasculaire, pour moi, c'est une maladie cardiaque jusqu'à preuve du contraire. Et c'est comme ça qu'on fera moins d'erreurs. C'est parce qu'on va être systématique. Je vais vous prendre un autre exemple, l'artérite. Donc, c'est les gens qui ont mal dans les jambes quand ils marchent. J'ai en tête deux histoires de femmes dont, d'ailleurs, j'en ai parlé effectivement
dans
mon livre.
Des histoires absolument terribles que vous racontez dans ce livre. Hein.
Ben, c'est là, les histoires, c'est les femmes.
Des femmes jeunes.
Des femmes jeunes, alors là, pour l'artérite.
Qui arrivent à être amputées.
Amputées, tout à fait. J'ai une femme qui avait à peu près 37 ans à l'époque, c'était à la rentrée des classes, hein. Une femme ravissante qui habitait dans le Calaisis, et fumeuse, et avec une contraception avec oestrogène. Ce qu'on l'a pas dit à l'antenne tout à l'heure, mais les oestrogènes de synthèse peuvent, avec certaines autres conditions, être à risque artériel et veineux. Et cette jeune femme, en fait, ça faisait 6 mois qu'elle se plaignait d'une douleur à la fesse en marchant. Mais effectivement, on l'avait traitée pour une sciatique. C'est-à-dire qu'on s'était trompé de diagnostic et elle avait eu des anti-inflammatoires qui sont contre-indiqués dans la maladie athéromateuse. Et finalement, cette femme, elle aurait eu un interrogatoire systématisé, parce qu'une artérite, c'est une douleur qui survient uniquement à la marche et qui s'arrête à l'arrêt de la marche. Et quand on l'examine, il y a un souffle. Donc on l'avait pas, enfin voilà, elle avait pas eu toutes les chances de son côté. Et effectivement, on a été obligé de l'amputer à une semaine de la rentrée des classes. Elle me dit, mais avec une jambe en moins, mon mari, il va plus me regarder, il va plus avoir envie de me faire des câlins parce que je ne suis plus la même femme. Vous savez, vous avez des témoignages comme ça, c'est horrible. J'en ai une autre, là c'est une gamine beaucoup plus jeune qui avait 28 ans. Elle s'appelait Laetitia. Enfin, j'ai changé un peu le prénom parce que pour la confidentialité. Et cette gamine, elle était en surpoids. Elle habitait là aussi en périphérie dans une des périphéries de Lille. Et elle s'est présentée aux urgences parce qu'elle avait extrêmement mal dans les mollets après un séjour en avion. Mais pas longtemps, elle revenait de Grèce. Il y avait la canicule à l'époque. Et en fait, ça a traîné. On l'a renvoyée chez elle. On lui a dit qu'il fallait qu'elle maigrisse, qu'il fallait qu'elle perde du poids. C'était la canicule. Et finalement, elle est revenue un matin ne pouvant plus marcher. Et là, la phlébite était tellement grosse, donc c'est un caillot dans les veines, ça avait comprimé ses artères, et on était obligé sur 2 semaines de l'amputer des 2 jambes à 28 ans. Tout ça parce que c'était pas la bonne contraception, et qu'elle avait une autre contre-indication qui était une maladie inflammatoire des intestins. Vous voyez, des histoires comme ça, je pourrais en écrire un deuxième bouquin. Mais l'important, quand on fait une émission comme vous, parce que vous êtes un colibri de la prévention, Claire, bah c'est de donner la connaissance, c'est que les femmes écoutent, lisent, et se fasse dépister, voilà. se dépister.
Et
s'écouter.
Et ensuite, quand le diagnostic est posé et qu'il faut se rééduquer, il faut faire la rééducation cardiovasculaire. Et là, vous dites, là encore, il y a des problèmes parce que les femmes ne trouvent pas le temps de le faire.
Lundi, vous avez le nouveau bulletin épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France qui vient de paraître. Et c'est édifiant, c'est moins de 15% des femmes après un infarctus qui vont en rééducation cardiovasculaire, après l'accident. Mais en fait, les hommes, quand ils font leur accident, ils sont ultra bichonnés. Hein, c'est la femme devient presque une maman. Et l'homme, il se coupe le doigt, comme dit Thierry Drillon, mon cofondateur, il y a le GIGN qui débarque. Une femme, elle prend sur elle, et elle va vraiment alerter que quand ça va plus du tout, ou quand elle se retrouve avec l'accident fatal. Hein. Donc ça, c'est complètement débile.
Hein, donc rééduquer, réapprendre.
Rééduquer, il faut prendre le temps de prendre soin de soi. Voilà, c'est important.
Et puis, il y a des bons conseils que vous appliquez à vous-même, vous le racontez dans votre livre. Marcher 30 minutes par jour, ça diminue de 20% le risque d'infarctus. Téléphoner debout en faisant les 100 pas. Mm-hmm. Vous avez placé votre corbeille dans votre bureau à distance pour vous obliger à vous lever, même si vous êtes championne de basket, ça vous oblige à vous lever. Une ou deux heures de sport le week-end.
Vélo d'appartement.
Voilà, vous dites que vous faites du vélo avec des tubes des années 90 dans les oreilles. Alors, ce qu'on va écouter maintenant, c'est pas un tube des années 90, mais des années 70. Et c'est une chanson qui n'a pas été choisie au hasard, puisque c'est une chanson qui sert désormais pour les massages cardiaques.
Ah.
C'est, paraît-il, le bon rythme, Staying Alive. Bee Gees en 1978. Merci à Djoubaka pour cette programmation.
France Inter, le 18-20. Claire Servageant.
Toujours en compagnie de Claire Mounier-Veillé, cardiologue. Cette chanson, je disais, c'était pas choisi au hasard, hein, Claire Mounier-Veillé.
Non, c'est la chanson qu'on utilise pour faire le massage cardiaque, voilà. Le rythme 1, 2, 3. Et en fait, elle est très rythmée. Et quand on apprend les gestes du massage cardiaque dans les formations, on utilise cette musique-là. Il y avait d'ailleurs aussi un clip qu'on peut retrouver sur les réseaux sur... on voit des cow-boys dans un garage, des mafieux, et puis en fait, il y en a un qui s'effondre, et sur la musique des Bee Gees, on montre qu'on peut masser.
Voilà. C'est l'occasion de rappeler qu'il faut se former aux gestes qui sauvent.
Il faut se former aux gestes qui sauvent, et pour les femmes, parce qu'on parlait des femmes, il ne faut pas avoir peur de masser une femme qui s'effondre dans la rue. On ne se dit pas, c'est un malaise vagal. Si on n'est pas sûr, si on n'arrive pas à bien palper les pouls, on fait le massage cardiaque. C'est pas grave de masser un cœur qui bat. Ce qui est grave, c'est de pas masser du tout, parce qu'on a 3 minutes pour sauver le cerveau. Et ça, les gens, il faut bien le comprendre. Plus de cœur, et donc le massage va remplacer la contraction du cœur, tout simplement, qui est un muscle.
Alors, on va parler un petit peu de vous maintenant, Claire Mounier-Veillé, parce que c'est de tradition dans cette émission. Vous avez raconté votre histoire dans ce fameux livre dont je parlais tout à l'heure, Mon combat pour le cœur des femmes chez Marabout. Vous racontez qu'au départ, vous étiez pas forcément une élève modèle à l'école. Ah. C'était pas votre truc.
Je pense, en fait, a posteriori que je dois avoir un TDAH. J'étais une hyperactive, je le suis toujours. Mais c'est vrai que j'étais toujours punie. J'ai redoublé mon CM2 pour indiscipline.
Mais vous aviez une vocation, et vous avez, vous êtes allé au bout de cette vocation, dans un contexte familial qui est quand même particulier, il faut le dire, vos parents étaient dans la médecine,
bah oui,
professeur de cardiologie.
Papa s'appelle André Vacheron, ça a été le président de l'Institut de France, ça a été un des grands ponts de la cardiologie en France, et exister avec quelqu'un comme ça, c'est un peu compliqué aussi. Hein. Et puis maman était médecin à la RATP. Et elle avait créé d'ailleurs une association qui s'appelait La Bouée pour les toxicos à la RATP. Donc, depuis mes arrière-grands-parents, nous sommes médecins. J'ai une fille qui est médecin, hein, qui va être gynécologue probablement. Et finalement, à 7 ans, je jouais à la secrétaire de docteur. Donc, je piquais les calepins des parents. Mais ma prof de 5e m'avait dit que j'étais tellement mauvaise que je ne serais jamais médecin. Et donc, j'étais dans une école privée sur Paris. Et je peux vous dire que j'aurais envoyé mes diplômes tous les ans.
Toujours est-il que vous êtes devenu médecin, vous êtes allé faire médecine à Bichat, puis vous êtes parti à Lille. Dès le début, vous êtes intéressé à la santé des femmes ?
Non, je voulais être gynécologue.
Ben, c'est la santé des femmes.
Mais le problème de la gynécologie, c'est que c'était une filière chirurgicale et j'ai une amblyopie, donc une petite infirmité visuelle. Et du coup, j'ai fait de la cardiologie, mais j'avais un patron génial qui s'appelait Alain Carré, qui aimait beaucoup travailler avec des chefs de clinique femmes, parce que c'est compliqué dans notre discipline de grandir quand nous sommes une femme, et j'ai pas peur de le dire à l'antenne. Il faut montrer 2 fois plus qu'on est capable d'eux. Et finalement, il m'a donné cette opportunité de me former en prévention en hypertension artérielle. Et effectivement, la grossesse, la contraception, puis en vieillissant, la ménopause, ça a été finalement une passion qui continue encore aujourd'hui, qui continuera quand je serai plus à l'hôpital. Voilà, c'est agir pour le cœur des femmes. En fait, c'est le projet jusqu'à la fin de vie, j'ai envie de vous dire.
La cause des femmes dans la santé. Vous dites que vous avez toujours été considérée comme la féministe de service.
En fait, c'est pas féministe, c'est démontrer qu'on peut être une femme, être une maman, être une épouse et avoir aussi des responsabilités. Dans un métier qui est quand même très féminin, hein. Dans les études de médecine aujourd'hui, il y a beaucoup plus de filles que de garçons qui sont reçus. Mais après, pour la carrière universitaire, demande quand même un certain nombre de sacrifices. Et c'est vrai que pendant 5 ans, mon mari de l'époque s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup occupé de mes filles et que je culpabilisais. C'est vrai, on culpabilise plus quand on est une femme. Je vais pas vous le cacher, c'est vrai. Mais maintenant, il faut pas non plus être féministe parce que c'est pas comme ça qu'on avance. On a besoin des hommes. La preuve, j'ai cofondé Agir avec un homme, Thierry Drillon. Donc voilà, on a besoin des deux. Voilà.
Alors, dans ce livre, vous racontez votre passion pour l'hôpital public. Hein, ça, oui. vous y tenez beaucoup. À l'hôpital public, même si vous travaillez avec des partenaires privés, hein, on l'a dit. Vous insistez aussi sur ce que vous transmettez aux étudiants, parce que vous êtes professeur. Hein, vous avez des internes, des étudiants que vous encadrez. Qu'est-ce que vous leur apprenez ? Moi, j'ai retenu que vous leur dites, écoutez le malade avant tout.
Mais écoutez, pas plus tard que lundi dernier. On a des ED, des enseignements dirigés pour nos étudiants, c'était les 3e année, et on leur apprend à faire un interrogatoire, un examen clinique, et en respectant la nudité. Tiens, je leur ai appris à rouler les draps, à se présenter, à demander le nom au patient, à avoir de la bienveillance. Et c'est ça qui est très important, c'est que dans l'entretien, vous voyez, aujourd'hui, on a beaucoup d'ordinateurs, tous les dossiers sont informatisés, on est noyé par les tâches administratives, parce que c'est sécurisé, à côté de ça, c'est sécurisé, mais du coup, le temps d'entretien, et c'est pour ça que dans le bus du cœur des femmes ou la journée du cœur des femmes, la petite sœur, ce sont des dossiers papier, parce qu'il y a du non-verbal dans l'entretien. Le regard qui fuit, le sourire, les mains qui s'agitent, la respiration. Et finalement, on est des détectives de la santé. C'est ce que j'essaye de leur apprendre. Écouter le patient, regarder la table de nuit, parce qu'il y a souvent plein de choses sur la table de nuit qui nous donnent des indices. Et c'est ça qui est important. La moitié du chemin, les examens complémentaires, finalement, vont venir confirmer notre instinct médical et le diagnostic qu'on évoque. Il ne faut pas faire l'inverse, voilà.
Et vous dites, j'aime les gens, tous ces patients, cette patiente, me font un bien fou.
Ah oui.
On a l'impression que c'est un échange donnant-donnant chez vous.
En fait, je pense que c'est la reconnaissance.
Vous confiez à eux-mêmes, à elles.
Oui, tout à fait. En consultation, bon, aujourd'hui, je dois voir à peu près 8 femmes pour 2 hommes. Et c'est vrai que je n'hésite pas à parler de ma santé à moi pour... En fait, on est dans l'intimité de la consultation et l'adhésion du patient, l'observance, ça va être aussi parce qu'il y a une relation de complicité qui s'inscrit. Il faut pas être familier, c'est différent. Mais par exemple...
Mais vous n'hésitez pas, vous avez eu des soucis de santé
vous-même.
J'ai
eu un cancer du sein en octobre.
Vous en parlez.
J'en parle volontiers, j'ai fait des témoignages sur les réseaux sociaux pour inciter les femmes en me disant finalement, je demande à mes patientes de témoigner sur le site d'Agir pour le cœur des femmes. Ben, moi aussi, je suis une patiente, je vais témoigner. Et finalement... Bah, quand vous racontez votre histoire, vous voyez, lundi, il y avait une femme qui n'avait jamais fait ses mammographies. On a parlé de ça, je lui ai dit, écoutez, voilà ce qui m'est arrivé, faites-le, parce que finalement, je n'ai eu que l'intervention chirurgicale. Et la dame m'a dit, d'accord, je vais aller faire ma mammographie, là, vous avez gagné. Et l'hôpital public, bah, on a l'impression qu'on soigne toutes les tranches de la société. On est égaux, je ne fais pas de consultation libérale, je ne fais que du public. Et j'ai la chance... Et là, c'est aussi l'occasion de remercier d'avoir un CHU qui est extraordinaire. Moi, Lille, j'adore mon CHU. Ça fait plus de 35 ans que je suis là. J'ai fait un stage en périphérie. Et j'ai une direction générale et un chef de pôle, une communauté médicale qui est bienveillante et qui m'accompagne dans la prévention. Parce que quand je pars dans les bus du cœur, je suis pas à l'hôpital. Et finalement, ils adhèrent à cette cause en se disant... Nous, le Sud Lille, on sert d'exemple. Et je les remercie.
Et ben voilà, une soignante heureuse qui raconte son histoire dans ce livre, Mon combat pour le cœur des femmes. On retrouve aussi toutes les informations sur le bus, sur le site, évidemment, Agir pour le cœur des femmes, avec plein d'informations.
Il y a plein d'infographies, je prépare ma consultation en 10 étapes. Donc téléchargez ces fiches, parce que vous allez sauver la vie autour de vous.
Hein, voilà, et puis sur le site, on va évidemment retrouver aussi les prochaines étapes du bus.
Fait.
J'ai cru voir
Montauban,
après il y aura Royan, Le Mans, Blois, ce fameux bus qui a été incendié lors des émeutes en juin dernier. Mais voilà, il y en a un
grâce
nouveau
au donateur que je remercie aussi à l'antenne, eh bien, on a pu racheter un bus et on a eu également la maison médicale mobile. Donc tout un équipement, parce que ça a coûté cher, des appareils Doppler, des ECG. Donc voilà, c'est finalement la population qui a dit...
Voilà, que ça devait continuer. Un très grand merci, Claire Mounier-Veillé, d'être venue ce soir sur France Inter. Merci mille fois.